Je vais questionner la notion de plan dans sa dialectique, non pas tant avec le mot champ, même si je ne l'ignorerai pas, vous n'ayez crainte, mais surtout avec la notion de tableau, puisque cette distinction terminologique est en effet associée à une distinction conceptuelle et esthétique fondamentale que je vais ici interroger, creuser et nuancer. Alors, ma contribution se structurera en deux parties essentielles, chacune dévolue à l'un de ces termes, en révélant surtout et notamment les implications picturales. Commençons avec ma première partie sur la notion de tableau. Donc, grâce à André Gaudreau, comme il l'a rappelé en ouverture, nous ne parlons plus de plan à propos des images du cinéma des premiers temps, en tout cas nous, chercheurs, puisque dans du littéraire au filmique survient ce constat parmi les plus explicites quant à cet apport du premier élan de la recherche sur le cinéma des premiers temps, mené notamment en parallèle par Noël Birch et Tom Gunning. Alors voilà la citation. L'acquis, nous disait André en 1989 déjà, l'acquis le plus décisif de ces 10 dernières années de recherche me semble être cette découverte de tout premier ordre relative à la conception qui aurait prévalu eu égard au plan, ou plutôt au tableau, comme on disait à l'époque, de manière tout à fait conséquente avec ce que je tente d'expliquer ici. En effet, pour les cinéastes des premiers temps, le plan fonctionnait vraisemblablement comme un tableau autonome et autosuffisant. Donc cette terminologie s'est en effet imposée pour qualifier les plans du cinéma des premiers temps, au point que l'esthétique même de ce que Birch définit comme le mode de représentation primitif est aujourd'hui communément renommée en anglais par l'expression « tableau style ». Alors la définition, fixée de nouveau par André dans l'Encyclopedia of Early Cinema, condense en ce mot de « tableau » toute l'esthétique fondée sur l'unité d'action d'espace et de temps, et sur le cadre centripète du champ délimité par la caméra. Donc je cite l'encyclopédie. Et en fait, dans cette encyclopédie, le terme intervient à la rubrique montage, editing, et thématise surtout la manière dont les premières images filmiques se juxtaposent l'une à l'autre de manière autarcique, sans continuité directe, un peu comme une série de tableaux accrochés les uns à côté des autres. Or, le non moins référentiel Companion to Early Cinema parle explicitement de tableau style of framing, en mettant l'accent sur la manière dont l'image filmique est conçue et délimitée comme un tableau, engageant un travail de composition et de cadre. Et l'on a pu lire ailleurs, par exemple dans The British Cinematographer, la description d'un tableau style of staging, propre à ses premiers films. Donc le mot de tableau permet de qualifier l'esthétique des images filmiques des premiers temps à tout niveau, mise en scène, mise en cadre, mise en chaîne. D'ailleurs, dans le premier colloque d'Omitor, on trouve la mention généralisée de « tableau style of filmmaking ». Richard Abel explicite et synthétise cela dans la formule « tableau style of autonomous shot scenes », qui trouve une sorte d'aboutissement dans le « silent cinema reader » et la généralité de l'expression « tableau style of early films ». Donc, si cette notion de tableau s'est autant imposée, ainsi que le rappelait la citation liminaire du littéraire au filmique, c'est d'abord par sa validité historique, puisque ce terme français, tableau, qu'on conserve intact dans l'expression anglaise tableau style, comme pour alléguer d'emblée de quelque chose d'authentique, d'originel, de lointain, était bel et bien utilisé à l'époque pour décrire les premières images filmiques. Alors voici l'un des premiers comptes rendus exemplaires des projections lumière. Dès le premier tableau, le repas de bébé, toute la salle était conquise. Et le cinématographe lumière n'a pas l'exclusivité terminologique. Le biographe est dès maintenant la grande attraction du jour. Pendant 20 minutes, on assiste à une série de tableaux qui sont la vie même, nous dit Le Figaro en 1897. Donc le terme tableau s'applique même aux films qui ne sont pas projetés, comme on le voit dans cette troisième citation, en introduisant dans une fente du kinétographe une pièce de cinq scènes, on voit aussitôt se développer toutes les phases d'un tableau animé. Alors bien sûr, tableau n'est pas le seul terme français utilisé à l'époque, on parle aussi de vue animée, de scène et déjà de film, mais l'appellation tableau se systématise avec l'avènement des films en plusieurs plans, où le mot tableau vient désigner chaque prise de vue qu'on numérote. Alors, on l'a vu ce matin dans les scénarios avec Stéphane, on le voit ici dans les catalogues. Et on va systématiquement parler de films en 7 tableaux, en 5 tableaux, en 8 tableaux. Le terme est parfois gardé en anglais, déjà dans les années 1900. Le plus souvent, on le traduit par « scenes » ou par « pictures », mais parfois, on trouve le mot « tableau » intact, que ce soit chez les représentants anglophones de Pathé, comme ici, ou de Gaumont, comme là. Alors, ce n'est pas uniquement par patriotisme que j'ai choisi le cas de figure de « Winter in Switzerland ». Donc, c'est la traduction libre du titre original « La Suisse en hiver », Gaumont de 1905. Mais c'est bien pour le caractère exemplaire de la phrase qui le décrit de manière quasi muséale, hein, comme « a complete exhibition in 9 remarkable tableaux ». Et concernant Méliès, dont tout de même nous avons l'honneur d'avoir la petite fille Anne-Marie parmi nous, donc concernant Méliès, c'est à l'occasion du colloque qui s'est déroulé en ces murs il y a précisément 20 ans, Jacques Maltet avait fait une étude statistique sur la manière dont ce mot de « tableau » avait été traduit dans les catalogues anglophones, et il avait révélé des usages parallèles, variables et fluctuants entre « picture, scenes » et « tableau », comme ici. Donc, « tableau » trouve bien des occurrences intactes en anglais, importées et conservées du français. Santiago Hidalgo, ici présent, a écrit combien, dans les premiers discours sur le cinéma, les, je le cite, « termes français ne trouvaient pas nécessairement d'équivalent dans la traduction anglaise, créant ainsi une sorte de troisième langue à partir de mots mal ou non traduits. Cependant, on l'a vu, les historiens du cinéma ont conservé ce terme de tableau dans sa résistance linguistique même, et la notion a été réactivée de la même manière non traduite, intouchable, dans la théorie du cinéma des premiers temps, aussi bien anglophone que francophone. Alors pourquoi ? Pourquoi ce terme de tableau est-il tellement intéressant, et d'où vient-il vraiment? Alors, on pense souvent que le mot est venu au cinéma par le théâtre, notamment avec le relais directement actualisé par Méliès, puisque si Méliès structure ses féeries en tableaux, notamment, c'est conformément au vocabulaire scénique et à la partition traditionnelle de ses pièces, qu'il transpose de la scène à l'écran. On témoigne par exemple cette féerie de Cendrillon, éditée en 1866 pour la scène, divisée également en plusieurs dizaines de tableaux. Et de fait, sur les scènes théâtrales de la fin du XIXe, quel que soit leur rang, les pièces se structuraient en tableaux, des féeries donc aux opéras, comme ici Don Juan, en passant par les drames, comme ici Catiline. Cependant, si on convoque notre petite Bible, rédigée par notre évangéliste lexical Jean Giraud, on constate qu'il décèle dans cette terminologie de tableau un autre héritage que le théâtre, certes énoncé en premier. Il s'agit de ce qu'il appelle le projectionnisme. Autrement dit, les projections lumineuses, la tradition de la lanterne magique et des conférences illustrées dont les plaques se faisaient bel et bien appeler tableaux. Donc les catalogues les vendaient en ces termes et en séries, des séries qui allaient bientôt pouvoir inclure des prises de vue en mouvement. Et les images filmiques ont d'ailleurs souvent commencé par être vendues dans ces mêmes catalogues, comme par exemple dans cette section finale du catalogue La Bonne Presse de 1905, où on retrouve le même modèle sériel et où c'est tout naturellement que va ressurgir le même mot, non seulement celui de vue, hein, qui va aussi bien pour les vues fixes qu'animées, mais aussi celui de tableau. Donc le théâtre et la lanterne magique ne sont en outre pas les seuls lieux où le vocable tableau règne et d'où il a pu infiltrer le cinématographe. Tableau s'utilise aussi, par exemple, dans l'édition de gravures, pour désigner les lithographies, aussi bien en noir qu'en couleur. Et on va même appeler tableau les groupes des musées de cire, au même titre que les groupes de musées ethnographiques, etc., etc. Donc tableau s'utilise partout, il provient d'autres champs culturels, et il rattache l'image cinématographique à d'autres images, à d'autres esthétiques. Mais plus précisément, il est le nom d'un picturalisme. Car fondamentalement, le mot tableau en français veut dire peinture. La peinture encadrée, la peinture accrochée au mur. Et si le mot s'utilise au théâtre, c'est parce qu'il règne dans la dramaturgie un modèle pictural. Et que depuis Diderot, on contemple la scène comme une peinture, un tableau, au sens propre et premier du terme. Donc le philosophe des Lumières, qui s'est lui-même souvent vu peindre, alors ici par Van Loo, hein, 1767, donc soit 10 ans plus tard que la citation d'à côté, où il prenait son idéal scénographique au conditionnel. Si un ouvrage dramatique était bel et bien fait, était bien fait et bien représenté, la scène offrirait aux spectateurs des tableaux réels. Autrement dit, une disposition des personnages sur la scène, si naturelle et si vraie que, rendue fidèlement par un peintre, elle me plairait sur la toile. C'est une citation hyper célèbre, mais donc c'est le 19e siècle qui va exaucer ses vœux en véritable consigne de mise en scène, ou plus précisément de scène mise, pour reprendre la formule de Roland Barthes, qui considère que la dramaturgie diderotienne, en lieu et place d'une mise en scène, prône une scène mise, c'est-à-dire, selon la reformulation de Pierre Chemartin ici présent, un espace agencé de telle sorte qu'il fasse songer à de la peinture. Toute l'esthétique de Diderot, explique Barthes, toute l'esthétique de Diderot, on le sait, repose sur l'identification de la scène théâtrale et du tableau pictural. La pièce parfaite est une succession de tableaux, c'est-à-dire une galerie, un salon. Ça va loin. Donc cette esthétique du tableau confinant presque à l'exposition de peinture s'impose graduellement pour trouver sa pleine application au XIXe siècle. Donc le mot de tableau s'institue dans ce théâtre pour désigner l'unité visuelle du spectacle. Donc le nombre de tableaux, le plus souvent, le nombre de tableaux indique le nombre de décors. Mais le mot est très récurrent et donc son acception peut varier. C'est pas tout à fait stable. D'ailleurs, ça ne l'est pas non plus dans la partition des films, où tantôt Méliès, par exemple, divise ses films en 40 tableaux et tantôt en 10. Enfin, donc c'est quand même un mot fluctuant, mais ça révèle une unité visuelle du spectacle. En ce siècle, donc, ce 19e siècle, qui a été dit par nombre de commentateurs du théâtre, le siècle de la dramaturgie picturale, le lien à la peinture n'est pas une simple métaphore. Donc la manière même d'écrire les pièces change, et tandis que Diderot préconisait, je cite, « d'écrire la pantomime toutes les fois qu'elle faisait tableau », les didascalies et les indications de jeu scénique s'amplifient énormément dans les pièces du XIXe siècle et sont même complétées par ce que vous voyez ici, qui sont des livrets de mise en scène. Donc des livrets de mise en scène où, vous le voyez, la pièce se réécrit littéralement sous forme de croquis, d'esquisses, de peintures. C'est tout un matériel visuel qui va accompagner la préparation de la pièce, qui va en faire partie comme ça de... Comme des consignes. Et donc, tandis que les acteurs du 19e appliquent bel et bien les souhaits de Diderot en étudiant leurs gestuels et leurs costumes dans les galeries d'art, et sont admirés par comparaison avec ces figures picturales, les décors ne sont reconnus d'une beauté incontestable que si l'on peut les assimiler à, et donc là je vais citer les termes exacts d'une critique admirant ces décors de Hamlet joué à l'Opéra Garnier en 1875. Donc, comment on les décrit? On les décrit comme des vrais tableaux que des maîtres signeraient avec orgueil. Donc, l'idée du vrai tableau comme modèle. Ces décors sont d'ailleurs tout entiers faits de peinture. Ils ne sont constitués que de toiles peintes qui s'échelonnent sur la scène. Les décorateurs ont le titre d'artiste peintre et ils travaillent de manière purement picturale. Une vision oblique révèle d'ailleurs bien le jeu illusionniste et perspectiviste de ces scènes, entièrement faites de panneaux peints. Au niveau architectural même, la scène se découpe comme une sorte de mur de verre ou de fenêtre ouverte, pour reprendre la métaphore définitoire de la peinture figurative, donc énoncée par Alberti à l'aube de la Renaissance italienne. Donc cette fenêtre ouverte définie par un cadre de scène. On voit ici la représentation de la même mise en scène de Hamlet, dont je vous ai montré un autre décor, vue depuis la salle, dans son cadre, comme derrière un tableau. Un cadre de scène qui se voyait même souvent explicitement travaillé comme un trompe-l'œil de cadre pictural géant. Donc cette conception verticale du décor peut paraître difficile à appréhender aujourd'hui, quoique pas tellement par nous, historiens du cinéma, que par des historiens du théâtre, qui sont habitués à voir une scène conçue surtout et avant tout en termes de plateau, horizontal. donc la base d'une scénographie contemporaine, la scénographie contemporaine est basée essentiellement sur la plasticité, la présence du corps et ce plateau géométral. Mais l'espace scénique d'alors, ouvert et fermé d'un rideau, se déployait verticalement pour composer une image frontale comme accrochée devant les spectateurs. Et donc c'est cette verticalité qui me semblait si essentielle et que j'avais évoquée en relation à la communication liminaire d'André, hein, cette transition-là entre plateau et tableau. Enfin, ce picturalisme scénique culmine dans le tableau vivant, c'est-à-dire des moments du spectacle typiques du 19e où la scénographie imite une toile bien précise. Le tableau n'est pas toujours de l'ordre du paradigme abstrait, mais il se concrétise en modèle totalement concret, copié terme à terme à la scène, en constituant ce que l'historien du théâtre Martin Meisel nomme le plus fascinant de tous les effets scéniques du XIXe siècle. Alors, les rares témoignages photographiques de ces scénographies n'en donnent qu'une très vague et très imparfaite idée, mais enfin, ça vaut ce que ça vaut. Vous avez là une reconstitution du fameux sacre de Napoléon sur la scène, une scène parisienne de 1889. À mon sens donc, le concept de tableau règne au théâtre comme la trace d'une modélisation picturale prégnante à tout niveau. Et toujours selon moi, l'occurrence du mot de tableau dans le cinéma des premiers temps révèle une même portée picturale, un même symptôme de paradigme esthétique général. Alors d'abord, à l'instar du cadre de scène, il va être courant dans le cinéma des premiers temps d'encadrer picturalement l'écran. Non seulement dans les premières salles officielles de cinéma, comme ici le Pathé Omnia, qui ouvre en 1906, et dont vous voyez les plans de la façade sur l'écran, comme je cite, hein, qui joue d'un véritable accrochage de l'image filmique. Mais on voit émerger cette tradition déjà dans les toutes premières projections, comme ici en 1897 à New York. En outre, la nature écranique des images filmiques, concrètement verticales, bidimensionnelles et parfois même coloriées à la main, proclame une picturalité assumée. Et dans l'une des premières entreprises d'enseignement théorique du cinéma qui a existé, à savoir les conférences sur la cinématographie d'Émile Kress en 1912, qui décidément a été citée aujourd'hui par tout le monde, la destination écranique de l'image devient la raison même d'une esthétique picturale qui est verbalisée de manière totalement explicite. En particulier dans cette introduction de sa cinquième conférence sur la composition de l'image, et en particulier sur la notion d'éclairage et de couleur, justement. Donc là, vous avez la couverture en négatif, c'était une microfiche, mais voilà. Donc, voilà ce que nous dit Émile Kress. L'acteur, l'opérateur et le metteur en scène doivent avant tout se représenter que l'écran est comme limité par un cadre et que c'est dans les limites de ce cadre que doit évoluer une action qui ne peut être affranchi des règles esthétiques de l'art pictural. Kress prône ainsi la soumission de la cinématographie, j'utilise vraiment ces termes dans la suite, aux lois qui régissent la composition en peinture. Donc c'est comme une sorte de Diderot moderne, hein, il va conseiller à l'artiste cinématographiste, quand même ça vaut le coup de le dire, ça, l'artiste cinématographiste, de visiter les musées, et même, je cite encore, de reconstituer des tableaux vivants. Or, ces consignes ont été appliquées, et bien avant 1912, dès les tout premiers films, dont les mises en scène prenant place dans des décors également faits de toiles peintes, et même d'une seule feuille, on l'a vu, on l'a thématisé, et souvent directement réalisés, ces décors, par des peintres décorateurs de théâtre, comme notamment Jambon, qui est un des plus connu, se cristallisait très souvent, je peux désormais l'affirmer, après ma thèse, en tableau vivant. Ainsi, l'usage cinématographique du mot tableau active-t-il des connotations picturales qui font sens à tous les niveaux ? En témoigne le nombre incalculable de films des premiers temps qui proposent une mise en abîme du tableau cinématographique sous forme de tableau pictural. Alors, l'exemple visuellement le plus saisissant que j'ai découvert parmi ce corpus de mise en abîme picturale du film, j'en ai choisi un, qui du coup essaye de compenser par le visuel un peu tous ces textes que je vous donne. Donc c'est, il vient de la George Eastman House à Rochester, et ça consiste donc dans le film Peinture animée de Pathé en 1904. Alors vous le voyez, il n'est pas de mise en abîme plus littérale. Le cadre dans le cadre est exemplaire. Le tableau filmique encadre un tableau pictural géant dans une frontalité et un format parfaitement redoublés. Un personnage, ici de dos, au premier plan du tableau, donc du tableau filmique et au devant du tableau peint, s'en présente comme le peintre. Donc palette et pinceau à la main, il est en train d'apporter les dernières touches au personnage du tableau pictural. Mais alors, posant ses pinceaux, il va subitement se muer en opérateur, puisqu'il va aller actionner une manivelle qui émerge du châssis et qui rend le dispositif hybride. Donc le personnage actionne cette manivelle et le tableau va se transformer. Alors non seulement la peinture va prendre corps et se réaliser, devenir photographique, on a ce saut comme ça de l'image dessinée à l'image photographique, hein, qui se matérialise, qui se réalise, pour prendre le terme de Martin Meisel, qui est justement un des théoriciens du tableau vivant le plus, et qui appelle ça « realization ». L'image va non seulement devenir photographique, mais elle va aussi devenir animée, elle va se mettre en mouvement. Et donc le tableau devient littéralement un écran, l'image peinte, une image filmique, et la mise en abîme est consommée et elle dure. Car le personnage ne reste pas opérateur, vous avez vu, il ne tourne la manivelle que le temps que le tableau se met en mouvement. Ensuite, la peinture s'anime d'elle-même et lui devient un bonimenteur. Ou plus précisément un bonimenteur admoniteur. Je proposerai, en reprenant la comparaison établie par André dans son article de 1993, fonction et origine du bonimenteur du cinéma des premiers temps. L'admoniteur, en effet, est un terme relatif à la peinture, désignant des figures qui fonctionnent comme des guides entre le spectateur et la composition. Traditionnellement, l'admoniteur est représenté à la marge des tableaux, et il apostrophe le spectateur par un regard frontal en lui désignant par le geste les éléments les plus importants de la composition. C'est une sorte de bonimenteur muet. Et dans ce film, cette comparaison s'actualise pleinement avec ce peintre devenu bonimenteur pantomimique, hein, puisqu'il va gesticuler, il va montrer, il va mimer l'action au seuil de laquelle il se tient. Et on doit imaginer qu'il était redoublé, évidemment, à la projection, par un véritable bonimenteur, pas toujours, mais souvent, voire même par un encadrement doré d'écran. Donc ce film semble ainsi proclamer la référence picturale au-delà même de l'écran, en deçà de tous ces cadres, hein, pour inclure même le bonimenteur dans une picturalité réflexive. Donc, les chercheurs qui ont rétabli le mot de tableau pour parler des plans du cinéma des premiers temps, ont à mon avis eu raison d'avoir raison. Ce terme qui a alors essentiellement été convoqué pour ses enjeux narratologiques, qui a été en tout cas justifié comme cela essentiellement, se révèle absolument et pleinement opératoire dans ses connotations esthétiques, picturales, qui sont historiquement révélatrices d'une esthétique de l'image cinématographique fondée par le tableau dans toute sa picturalité. Dès lors, abordons le second plan. C'était facile, avec la question du mot « plan ». La substitution terminologique que nous, historiens, faisons de ce mot de tableau par le mot plan, sitôt le seuil de l'institutionnalisation du cinéma et de la systématisation du découpage franchi, ne correspond évidemment pas, nous le savons, avec la réalité historique des dénominations de l'image cinématographique, qui certes a opéré cette substitution, mais en évoluant de manière beaucoup plus complexe et nuancée, continuant de se faire dénommer tableau jusque dans les années 20, trouvant bien d'autres dénominations, tandis que, et André le montre dans son texte des actes du colloque découpage, il l'a rappelé ici en introduction, le terme de premier plan s'applique au cinéma dès les années 1900, et puis on l'a vu ce matin enfin, avec Stéphane, et bien vite, dans un glissement, c'est ça que montre André dans son texte, ce glissement qui tend à réifier et transformer le concept pour en venir à désigner l'image filmique tout entière. Alors je ne reviens pas sur ce glissement terminologique, j'aimerais en fait proposer ici une hypothèse, alors qui n'en est qu'à ses prémices en termes de démonstration. Donc c'est que contre toute attente et malgré qu'elle soit devenue si spécifique au langage cinématographique, la notion de plan se serait imposée historiquement en restant liée à une certaine conception picturale de l'image filmique, contrairement à celle de champ. La distinction entre le plan et le champ rejoue quelque chose de la dichotomie que j'ai présentée entre le tableau et le plateau, et leurs affiliations réciproques, en l'occurrence, pour le plan, son affiliation picturale. Donc ces deux mots, plan et champ, sont en fait des métonymies et ont le même complément implicite. On parle en effet à l'origine de plan de vision et de champ de vision. On en trouve d'ailleurs des occurrences précoces complètes, par exemple... dans le ciné-journal de juillet 1910, avec une citation qui a été citée ce matin, un article de Georges Quint intitulé « Impressions cinématographiques ». Cet article est passionnant à cet égard, c'est pour ça que je l'ai choisi et que je persiste à le montrer, même si on en a déjà parlé. Excuse-moi, Laurent. Alors, c'est un article qui décrit un tournage, et tandis qu'il explique que, je cite, « les acteurs attendent leur tableau », il décrit un peu plus loin l'agitation des régisseurs et des photographes qui, je cite, « tracent à la craie bleue le champ de vision sur le pavé gris ». Donc le champ, explicitement appelé « champ de vision », est, conformément au sens premier du mot, délimité au sol, et conçu de manière géométrale. Le terme sera répété en dernière page, mais décliné différemment et dans une phrase qu'on a vu donc ce matin et qui use même de ce mot plan, donc c'est un petit bijou terminologique, mais on va voir. Cependant, le sourcil crispé, les régisseurs tirent leur plan, mesurent et délimitent le champ de vue. Alors selon toute vraisemblance, le champ de vue, plutôt que de vision, se délimite et se mesure à nouveau à terre. Les régisseurs, qui sont décrits en amont comme les personnes chargées je cite le texte, de régler les mouvements et préparer les accessoires, sont en train de préparer le plateau. Mais il y a cette merveilleuse expression « tire leur plan » qui nous amène forcément à imaginer une ambivalence, une acception concrète qui instaurerait une assimilation entre plan et champ. Je pense qu'il faut aussi simplement en revenir à l'expression « tire leur plan », c'est-à-dire que... l'expression, dans son sens commun belge, qui veut dire se débrouiller. Les régisseurs se débrouillent, ils tirent leur plan comme ils veulent, enfin, ils tirent leur plan, ça veut dire se débrouiller. Néanmoins, bah, les guillemets, l'effet de reformulation entre tirer son plan et mesurer le champ, et la nature du signataire de l'article qui, selon mes recherches, est un écrivain, Georges Quint lui-même, entretient le doute et fait résister notre envie de croire à une polysémie consciente et explorée par l'auteur de ce mot de plan, qui déjà en 1910 rime si bien avec champ. Ainsi, dans ses premiers usages, et encore majoritairement aujourd'hui, lorsqu'il est utilisé, le champ correspond à une étendue en profondeur, surtout conçue comme un synonyme de la portion du plateau embrassé par l'objectif. On parle souvent alors de la disposition ou la mise en place du champ, qui est un acte de mise en scène bien plutôt que de cadrage, lié à une occupation, une délimitation du terrain de jeu au sens propre. Alors certes, on trouve des occurrences contemporaines du mot plan dans cette même acception de terrain. Au sein des consignes que les metteurs en scène hurlent aux acteurs, qui sont caricaturés dans cet article de 1911, la première, précisément, est « ne sortez pas du plan ». Non pas du champ, mais du plan. Et André a rappelé l'usage du terme de « plan au théâtre » pour désigner et numéroter les différentes profondeurs de la scène. Cependant, cette partition de la scène n'est due qu'à sa structure picturale, son effet illusionniste de tableau. Si l'on parle de « plan au théâtre », c'est par ce paradigme pictural que j'ai démontré, et c'est un symptôme de plus, à mon avis, de cela. Donc la peinture figurative en perspective a pour principe même de transformer la profondeur en surface plane via une projection linéaire structurée par un étagement graduel, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, etc. Or, cette abstraction de la profondeur en plan trouve une matérialité inédite dans cette scénographie théâtrale, soumise à un paradigme pictural. C'est-à-dire que les plans, ces plans trouvent une matérialisation scénique, puisqu'ils impliquent de découper concrètement, au ciseau, les plans de la peinture pour les redéployer les uns derrière les autres sur la scène, en permettant ainsi à l'acteur de s'y encastrer, d'aligner sa propre plasticité sur cet étagement bidimensionnel. Le metteur en scène Adolphe Appia renommera ces plans des découpures. Non sans connotation péjorative, hein, puisqu'il s'insurge contre cette peinture découpée qu'il considère comme une absurdité, le comble du paradoxe, puisque selon lui, non seulement elle renie l'effet plastique de l'acteur, mais elle déjoue aussi le principe même de l'illusionnisme pictural, puisque tout est pensé pour une seule et même surface. Dès lors qu'on va démultiplier les surfaces, ça ne fait plus de sens, selon Appia. Donc ce mot de découpure n'est en outre pas sans résonance avec la future terminologie de découpage, de collure, qui va se mettre en place autour de l'appropriation filmique du mot plan, et c'est évidemment pour ça que je l'ai mise en exergue. Donc, venons-en en effet à Giraud, et donc à ce champ lexical cinématographique, à son entrée plan dans son lexique. Tout d'abord, notons qu'en guise d'origine étymologique de la notion, il regroupe en une seule et même parenthèse beaux-arts, théâtre, corroborant cette continuité que je viens de déployer. Par ailleurs, à l'heure où Giraud rédige son lexique, il précise que la terminologie encore mal fixée fait apparaître de nombreux synonymies. Et il précise, lui, l'affiliation de l'expression à la locution complète « plan de vision ». À deux reprises, il va parler de « plan de vision ». « Plan de vision » est une notion d'optique qui jalonne les traités scientifiques du temps, à l'instar donc de ce texte d'un autre Giraud, Giraud Telon, qui est un traité d'optique de 1861, ou comme cet autre traité consacré à la photographie métrique, qui nous amène à une petite mais nécessaire parenthèse photographique. Donc, la photographie, en effet, est aussi un domaine d'essor et de développement incontournable du terme de plan, qui n'est bizarrement pas cité par Giraud, alors que la photographie joue un rôle fondamental dans l'héritage de la notion au cinéma. Donc, de manière significative, en effet, le premier article qui paraît dans le Ciné-Journal avec le mot « plan » en son titre même, à savoir un double article de mai 1911 intitulé « Du choix des plans », se révèle en réalité un copier-coller d'une revue photographique, consacrée uniquement à la manière de réaliser de bonnes prises de vue fixes. La notion de mouvement du sujet est totalement étrangère à ces descriptions. La seule adaptation de l'article au contexte du ciné-journal réside dans l'ajout d'une mention surplombante qui assez habilement noie la distinction en adressant ses conseils de prise de vue non seulement aux photographes, mais aussi aux, je cite, « ciné-photographes ». Donc cet exemple emblématise un relais, à mon sens plus direct encore que le théâtre, dans l'infiltration du mot « plan » au sein de la terminologie « ciné-photo », non cinématographique qui est incarné là dans ce copier-coller, dans cet article qui se déplace d'un journal à l'autre. Donc en photographie, le mot plan est alors utilisé de deux manières. D'abord et essentiellement pour décrire, comme dans la peinture et comme sur la scène, les strates de composition de l'image, la prise de vue photographique étant conçue comme un moyen privilégié de travailler, d'aménager, de choisir ses avant-plans, premier plan, deuxième plan. C'est le cas dans cet article du Ciné-Journal, hein, qui se présente comme un mode d'emploi de, je cite, « composition parfaite, digne des expositions d'art photographique ». L'auteur, Albert Rainer, use du terme « plan » dans la pure tradition picturale, en revendiquant par là toute la légitimité artistique de l'image photographique, d'ailleurs directement nommée « tableau ». Ainsi, l'article prône, je cite, « l'importance des premiers plans dans la composition d'un tableau ». Donc, comprenez, d'une image photographique. Et il explique au photographe comment les aménager. Tantôt, il incite le photographe, ciné-photographe, et donc cinématographe, à créer des avant-plans, et tantôt, au contraire, à en faire l'économie au profit d'un premier plan solide, d'un arrière-plan vaporeux. Tantôt encore à échelonner quelques plans secondaires destinés à combler les vides de la composition. Donc ce picturalisme émanant de la terminologie est revendiqué par l'auteur qui en fin d'article compare explicitement le travail du peintre et du photographe, en y prenant non seulement les mêmes motifs, mais surtout les mêmes règles. En vertu d'une loi qui trouve toujours son implication en peinture, la base du sujet représenté ne doit jamais venir dans le cadre, c'est-à-dire qu'il doit exister une bande de terrain suffisante pour donner de l'assiette à la composition. Cette règle est souvent méconnue du portraitiste. Il faut ici comprendre ici le photographe de portrait. Alors je tenais à vous montrer cette citation et cette loi qui dit, puisqu'on a tellement parlé de la barre, des pieds sur le bord de la case ou de l'écran, de ce plan pied, ce plan cheville au cinéma, hein, là c'est très intéressant de voir qu'il y aurait une loi picturale et photographique qui devrait couper les pieds. Mais donc dans le milieu photographique, il semble que le mot plan ne survienne pas uniquement à ce titre et qu'on trouve aussi des occurrences du mot plus général, incitant à concevoir la prise de vue elle-même comme un geste de découpe du champ visuel, le choix d'une section, la définition d'un plan. On verra ainsi apparaître dans des traités aussi surprenants que celui de la photographie en cerf-volant, des expressions comme « prendre une vue en plan ». Cela nous ramène au traité où le mot de plan survient le plus systématiquement, en constituant même la source première, qui sont les textes de géométrie. Les occurrences en sont innombrables, notamment sous la forme précisée de plan perspectif, ou, je vous le donne en mille, de plan du tableau. Nos deux notions se voient accouplées. Au lieu d'une substitution, il s'agit ici d'une véritable collusion qui fait converger le chassé-croisé que leur réservera l'histoire du cinéma, où ce sera l'un ou l'autre, ou en tout cas pour l'un pour l'autre. Ici, il semble que ce soit l'un pour l'autre, mais ensemble. Car selon la définition géométrique qui est détaillée ici, et qui remonte à Alberti lui-même, en fondant toute la perspective et toute la peinture figurative, le tableau équivaut à un plan. Il se définit comme tel, c'est une section de la vision. Ici, on parle d'intersection. Alberti parle de voile intersecteur, et l'idée de la section est fondamentale, et du point de vue, de la vue. Donc, c'est un morceau choisi, bidimensionnel, du champ visuel. Cette dimension est rendue plus patente encore dans une autre locution géométrique, qui deviendra par ailleurs cinématographique, qui est le plan de coupe. Le plan se définit en effet fondamentalement, géométriquement, picturalement, comme une découpe, un découpage. Giraud rend explicite, selon moi, cet héritage géométrique fondamental du mot plan par sa locution de plan de vision et sa catégorie beaux-arts. C'est selon moi, en revenant à cette signification géométrique et picturale fondamentale, que les ambivalences pointées par le terme au cinématographe entre les différentes significations du mot plan, s'éclaire et se hiérarchise, s'atténue. Car finalement, le plan qui gradue et découpe la profondeur de champ et le plan qui signifie la découpe du champ par le choix d'un angle de vue sont directement et logiquement, car géométriquement, dérivés l'un de l'autre. Cette acception picturale de coupe visuelle permettant non seulement de diviser le tableau en sous-unités, premier plan, deuxième plan, etc., mais aussi de concevoir l'image tout entière comme une section du champ de vision, un plan supplémentaire, et selon moi, au fondement de tout le succès, le développement que connaîtra au cinéma la terminologie de plan. Le plan est par essence fragment, découpe, que le théâtre du 19e travaille dans la contiguïté et que le cinéma fera advenir dans la continuité. Et donc si en première partie de conférence j'ai inféré que le paradigme pictural de l'image filmique qui présidait à sa dénomination de tableau trouvait une actualisation visuelle et une sorte de cristallisation avec les films conçus comme des tableaux vivants, alignant exactement l'écran sur un encadrement et la mise en scène filmique sur une mise en scène picturale, eh bien le caractère porteur de la notion de plan trouve selon moi sa meilleure manifestation avec ces mêmes cas de films imitant précisément des tableaux, qui vont peu à peu se voir concrètement découpés en plans, dans tout le retentissement polysémique de cette expression, puisque les plans filmiques vont devenir des plans découpés du tableau. Donc, je finis tout de même enfin avec des images. En commençant par les tableaux vivants cinématographiques des dernières cartouches. C'est une toile d'Alphonse de Neuville qui mesure 1 mètre sur 1 mètre 65, mais c'est pas tellement pertinent de la considérer uniquement dans son format original, car c'est un tableau qui a suscité une explosion de séries culturelles et qui s'est démultiplié sous tous les formats et dans toutes des reproductions possibles. Et c'est un tableau qui constitue, dans mon corpus de tableaux vivants, un cas exceptionnel et admirable, puisqu'il reste des traces de cette reconstitution chez presque toutes les maisons de production françaises. Ces premiers tableaux vivants, comme par exemple ici Pathé, très précisément respecter ce cadre et aligner hyper précisément le cadre de la caméra au cadre pictural et cloisonner le champ. En plus, il y a une sorte de thématisation du hors-champ, puisque c'est un assaut et on résiste à l'ennemi qui est aux marges de ce plan. Donc il y a toute une thématisation très intéressante. Mais enfin, ces premiers tableaux vivants cinématographiques, ici vous avez un tableau de 1899, vont vraiment respecter cette frontalité, ces mêmes cadres, ces mêmes bords du champ, du tableau et du plan. Donc ça, c'est un autre tableau vivant de Gaumont, film Gaumont de 1899. Alors, j'ai trouvé un tout petit flou, etc., mais on voit qu'il y a bien ce même respect très exact du cadre. C'est pareil chez Les Lumières. Vous avez ici un film Lumière de 1897. Ça change un peu avec ce film de Segundo de Chomón de 1903, où on change un peu de plan. On est un peu plus oblique par rapport à la frontalité du tableau, où on voit qu'on est en train de se déplacer. Et puis, ça va vraiment s'actualiser dans ce qu'on appelle un découpage. Alors, je m'excuse pour cette qualité, je ne l'ai pas encore vu, ce film, j'ai pu seulement en avoir des reproductions. Mais là, si vous plissez les yeux, vous verrez un peu que on a d'abord donc c'est un film Gaumont de 1907. On soupçonne que ce soit fait. On soupçonne Alice MacMahon soupçonne que non et d'autres que ça a été fait par Alice Guy, Alison MacMahon. Et donc on a un plan d'ensemble. Ça, c'est moi qui utilise ces termes, mais on a ce plan d'ensemble qui respecte exactement le cadre, et puis on aura un phénomène de découpage où on va s'approcher. Alors, j'ai pas vu ce film, donc je sais pas s'il y en a d'autres. Et puis là, il semble que ce soit un raccord dans l'axe vraiment frontal qui s'avance. N'empêche, on a ce découpage réel d'un plan qui devient un plan du tableau, puisqu'on est en train de se fixer à peu près à hauteur de la cheminée pour voir deux soldats, l'un tombant mort et puis l'autre prenant sa bague ou je sais plus quoi qu'il doit apporter à sa défunte. Donc on nous crée une histoire dans ce tableau au niveau d'un des plans de ce tableau, et puis c'est suscité par un découpage. Et donc ça, c'est en 1907, raccord dans l'axe. Et puis, il y a un film d'André Agny de 1914 qui semble perdu, mais dont il reste cette affiche. Une affiche qui est prometteuse du découpage qui a dû se réaliser dans ce film, avec cette image aussi des dernières cartouches, mais avec un plan. Non seulement on est en oblique, et donc on a l'angle de vue qui est changé, mais en plus on est rapproché, puisque c'est pas pareil que le Chomón, qui gardait comme ça cette composition très large. Là, on est beaucoup plus resserré, et donc on a ce jeu comme ça du découpage qui s'allie à un échelonnement des plans et en plus à une fragmentation des plans cinématographiques. J'ai d'autres exemples. Je vous montre juste quelques images, justement. Donc, ça, c'est un tableau de Jean-Léon Gérôme qui va trouver justement en 1913 chez Guazzoni, donc période de transition, un recadrage. Et bizarrement, on recadre pour mieux montrer le groupe visuel, Mais en fait, pour se séparer de la composition du tableau, puisque c'est le premier plan qui, le premier là, ce plan-là qui est beaucoup plus similaire au tableau. Mais en fait, il y a un effet de recadrage, de nouveau de raccord dans l'axe, qui se concentre sur les personnages et donc se concentre sur un plan du tableau pour le montrer de manière plus évidente. Et pourtant, on est en train de lâcher comme ça le cadre du tableau pictural. Et puis, Guazzoni va beaucoup travailler ce découpage-là. Notamment justement un autre Jean-Léon Gérôme, toujours dans le même film, qui va subir un vrai découpage où là on a non seulement on reprend le tableau dans son entièreté en haut, mais après on va faire un recadrage sur les martyrs chrétiens et puis même sur ceux qui regardent, les spectateurs. Donc là on va vraiment découper comme ça le tableau. Et puis je finis avec le sacre de Napoléon, puisque je vous avais montré ça dans les exemples théâtraux, tout d'abord de tableaux vivants, et puis un exemple filmique, hein, donc qui était un film Pathé de 1903 que je vous avais montré. C'est intéressant de savoir que Pathé, en 1909, va remettre en scène le sacre, mais cette fois, il y aura un effet de recadrage sur un plan du tableau, mais en fait c'est parce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont s'approcher, et puis à le moment où Napoléon se couronne lui-même, eh bien il va le faire face caméra, en s'approchant, tout le monde s'approche, et comme ça il va bien montrer aux spectateurs qu'il est en train de remettre lui-même sa couronne de ses mains, donc l'action est divisée, et donc on va simuler comme ça un découpage, mais ça on le simule là. Le film Vitagraph de 1909 conserve le plan tableau dans toute son entièreté sans le diviser. Par contre, je trouvais intéressant de finir quand même avec un film qui est beaucoup plus tardif, mais qui est vraiment, c'est le film Désiré de Henri Coster en 1954. Et là, c'est vraiment le découpage, c'est le tableau découpé en plans dans tous les sens du terme possible. Voilà. Wow, merci.